Radio Prague, les informations.
Cyril Svoboda souhaite l'abolition de l'obligation de visa pour les Tchèques, il l'a déclaré à Toronto. Le CSSD et l'ODS ont des vues différentes sur la lutte contre la corruption. Un meeting contre l'antisémitisme a eu lieu ce dimanche à Prague. Le chef de la diplomatie tchèque Cyril Svoboda, qui est depuis vendredi dernier en visite de 4 jours au Canada, s'est exprimé en faveur de l'abolition des visas pour les citoyens tchèques se rendant dans ce pays. « Je n'ai pas entendu, ne serait-ce qu'un seul argument rationnel de l'autre partie pour justifier le régime actuel », a-t-il déclaré à Toronto. Le Parti social-démocrate et le Parti civique-démocrate ont des vues différentes sur la façon dont on devrait combattre la corruption dans le pays. Si le CSSD favorise l'introduction d'une législation plus sévère, l'ODS est en revanche pour la réduction de la régulation et des interventions de l'État dans la vie de la société. C'est ce qui ressort d'un débat télévisé ce dimanche entre le Premier ministre Jiří Paroubek et Petr Gandalovič, maire de la ville de Ústí nad Labem en Bohême du Nord. Un meeting contre l'antisémitisme a eu lieu ce dimanche à Prague. Sous le mot d'ordre, nous sommes tous des hommes. Tourner l'attention vers l'existence des préjugés raciaux et de l'antisémitisme, voilà le but de la manifestation convoquée par l'association tchèque de l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem. Les médecins, les stomatologues et d'autres travailleurs de la santé publique poursuivent leur critique à l'adresse du ministre de la Santé publique David Rath et de sa politique. Selon l'association des médecins praticiens, ils veulent convoquer pour la fin du mois de mai une manifestation de protestation qui sera précédée par plusieurs menues actions. Lors du contrôle du dépôt de déchets à Lipčice dans la région de Hradec Králové, les chimistes ont détecté plus de 1000 sortes de matières toxiques. En 2005, les spéléologues tchèques ont remporté de grands succès lors de leurs recherches en découvrant par exemple de nouveaux corridors dans la grotte Djalovica au Monténégro. Des prix aux meilleurs d'entre eux ont été décernés dans le cadre de la 25e édition du Spéléoforum qui a eu lieu dans la ville de Sloup. Météo ce lundi qui est marqué dans le calendrier tchèque comme le jour de fête de Jiří Georges. Il fera assez beau, le ciel sera presque clair et les températures d'hier se situeront autour de 20 degrés. C'était le journal préparé par Alena Gebertova. Ah,
culture sans frontières.
Retrouvons aujourd'hui le groupe français Lavarda qui a inauguré sa tournée 2006 en donnant un concert à Prague avant de reprendre la route vers les villes tchèques de Třebíč et Pardubice, puis celles d'autres pays d'Europe centrale. Une occasion de parler de leur musique qu'ils qualifient de folk alternatif, très inspirée par les rythmes slaves ou balkaniques, ou encore de leurs textes et de leurs activités annexes.
O'Sullivan, O'Sullivan, il rentra pas ce soir. O'Sullivan, O'Sullivan, il a les idées noires. O'Sullivan, O'Sullivan, 6 heures comme tous les soirs. O'Sullivan, O'Sullivan, il a les idées noires. Noir comme les veines de Dublin, qu'on traverse sans fin, pour un demi-penny, pour étancher l'ennui. Noir comme la haine à Derry, les larmes de Molly qui font à l'infini des rivières à Newry.
Un peu fatigué quand même le 16 mars dernier, les musiciens de la Varda. Alors que le deuxième groupe tchèque, Ahmet Mahrlat, fait sa balance et s'apprête déjà à commencer la soirée, les musiciens français sont arrivés à la dernière minute. Panne de camionnette en Allemagne. Malgré tout, ils ont bien voulu parler quelques minutes et c'est dans un minuscule réduit que j'ai trouvé un coin pour m'asseoir et discuter avec deux de ses membres, Kif et Jean-Marc, dit Yanoche. Une salle dont l'espace est encore amenuisé, car en plus d'être six troubadours en tout, il multiplie le nombre d'instruments, comme nous le détaille le dénommé Kif.
Il y en a qui rient, là. On va partir par les plus farfelus. Il y a de la nickel harpa, c'est un instrument suédois, du bouzouki, mandoline, viola roue, tuba, cornemuse, deux violons. Après, bon, il y a le combo contrebasse, batterie, guitare électrique. Et il y a encore d'autres trucs, accordéon diatonique, accordéon chromatique. En fait, tu vois, t'es au milieu, là. Tu vis au milieu de tout ce bazar.
Petit historique de la Varda. Pourquoi ça s'appelle la Varda et d'où vient le nom ?
Le nom vient de l'imaginaire des gens du voyage qui appellent leur roulotte Verdine, Verdino, Vardo, Varda. Varda, c'était notre imaginaire à nous qui a choisi ce nom. Ça n'existait pas. On entre une roulotte, un voyage. On fait un petit voyage à travers l'Europe, la musique et le rock.
Est-ce que vous êtes musicien déjà à plein temps ?
En France, on a la chance d'être intermittent du spectacle, oui. Donc, faisons partie des heureux chanceux européens à pouvoir vivre de ça.
C'est encore possible parce qu'il y a eu pas mal de...
C'est encore la merde. C'est encore en train d'évoluer en ce moment, encore dans un côté négatif. Et c'est de plus en plus difficile d'accéder au statut et surtout de le garder maintenant. Avec des groupes comme nous, il faut avoir quand même beaucoup d'histoires à côté, être vraiment musicien ou être dans le spectacle et avoir quand même des projets à côté. Parce qu'avec un groupe, avec autant de personnes à nourrir derrière.
Vous avez des projets annexes
juste ? Oui, quasiment tout le monde. Je suis dans un duo qui s'appelle Les Croquants, on fait de la chanson française. Il y a Sylvain qui est dans un trio de jazz, Jean-Marc qui fait toute la promotion des cornemuses de chez nous.
Comment ça se déroule au niveau des textes ? Qui écrit ?
Les personnes qui écrit, c'est un truc volontaire. Nous avons, moi, il y a mon grand frère qui n'a rien à voir avec la musique qui a été pris. Il y a un autre garçon qui s'appelle Paul-Marie Blanc, qui est de Toulouse, un ami. Un autre gars de Franck Raymond de notre village, qui écrivent des textes dans notre univers, dans ce qu'on leur a demandé, qui font ça super bien. Et c'est aussi donner la parole à des gens qui le méritaient. C'est que par choix, par amitié. Et puis maintenant, c'est ouvert. On reçoit sur le net des gens qui ont compris le système, qui ont compris notre univers et qui commencent à nous envoyer des textes. Et on est preneurs.
Un texte qui m'a bien plu, Le Chevalier de la Barre. Ça me fait beaucoup penser à une tradition très française, anticléricale, laïcarde. Bouffe-curé.
C'est un hommage à un personnage. Il a été pris comme symbole de la laïcité. Ah, mais c'est sur la statue qu'a été fait le texte. Quoi. C'est la statue du Chevalier de la Barre qui fait la nique au Sacré-Cœur. Il y a, je sais pas si c'est une tradition bouffe-curé, mais en tout cas, personnellement, ça allait dans le sens de ce qu'on pense.
Achète dans son Qatar, ton bourreau inquisiteur, ils t'ont arraché la langue, ils t'ont torturé à mort. Leur pensée est une gang qui réhausse avec de l'or. Les chiens de Dieu se valent, au teint plus souvent que fier. Or ils ont les mains bien sales, aujourd'hui autant qu'hier. Je te salue mon vieux frère, par-delà les temps passés. On a fait mordre la poussière, au curé et peu la crosser. De nos jours tu peux le croire, ce n'est que question de temps. Ils sont au bout de l'histoire, ces tristes charlatans. Ils disparaîtront d'eux-mêmes. Sans avoir à les pousser, ce n'est plus blasphème de nos temps que sans bosser. Continue donc, camarade, allez, t'attends du doigt.
C'était un extrait du Chevalier de la Barre du groupe français La Varda. Le Chevalier de la Barre, jeune homme de 19 ans qui en 1766 fut soumis à la question, torturé et exécuté pour ne pas avoir salué une procession religieuse. Devenu figure de proue des défenseurs de la liberté de penser, une statue est érigée en 1905 devant le Sacré-Cœur à Paris pour contrer symboliquement l'édifice érigé suite à la répression de la Commune. La statue sera fondue pendant la Deuxième Guerre mondiale pour en faire des obus et il faudra attendre 2001 pour que le Chevalier de la Barre toise à nouveau la basilique. Alors un groupe engagé, la Varda ? En tout cas, un groupe qui met en musique des textes choisis aussi en fonction du thème abordé, comme des fleurs dans la Seine, rendant hommage à Brahim Bouram, ce Marocain noyé après avoir été jeté dans le fleuve par des militants d'extrême droite à Paris lors d'un défilé du Front National en 1995. Extrait.
Qui se souvient d'un défilé en plein Paris au bord des quais, au sein du macabre cortège, des mains tendues tendaient un piège. Qui se souvient qu'un jour la Seine fut témoin d'un crime de haine, un crime qui sait nous revenir. Le fleuve emporte les souvenirs. Pas besoin de vous faire un dessin, dresser la liste des assassins. La horde blanche est épanée, les nazis on les connaît. Pas besoin de vous faire un discours sur les idées qui tournent autour du populisme qui attise les rejetons de la bêtise. Pas besoin non plus d'avoir vécu le temps des races au coin des rues.
Un engagement qui n'est d'ailleurs pas que politique. Le groupe soutient une association qui vient en aide aux communautés roms de Roumanie. Solidarité de gens de la route un peu mieux lotis avec des gens de la route plus en détresse. Janosch nous parle un peu plus de Sarfirdem, d'où je viens, en langue rome.
Sarfirdem, c'est une association française pour venir en aide en fait aux Tziganes. Au départ, c'est parti d'une histoire de copains qui sont partis en roulotte de Carcassonne jusqu'en Roumanie, et notamment dans un petit village du nord de la Roumanie où on a rencontré des musiciens là-bas, on en est devenus amis. Devant la misère de la partie Tzigane du village, on a décidé de monter cette association en France en soutien à une association qui a été montée là-bas en Roumanie. Donc on organise des manifestations en France pour récolter de l'argent, pour faire des routes, des puits. Enfin, l'association aussi en France s'occupe des Tziganes immigrés qui arrivent en France et qui se retrouvent dans des camps.
Vous avez été sur place, donc.
Je suis allé, voilà, en Roumanie. L'occasion d'ailleurs de la première action qui était l'ouverture d'une maison de la culture Tzigane.
Est-ce que ça s'en est ressenti, par exemple, de votre musique après ? Est-ce qu'il y a eu un partage musical en plus ?
Oui. Alors, pour moi, personnellement, oui. Après, le groupe, c'est pas le groupe Lavarda qui est allé là-bas. Moi, j'ai fait partie donc du groupe Lavarda, mais c'était une histoire personnelle que j'ai rapprochée de Lavarda parce que c'est mon expérience personnelle, en fait. Moi, j'ai appris, oui, de la musique là-bas, et c'est des choses qui sont diffus dans Lavarda. On est un groupe de folk rock. Bon, c'est il y a beaucoup d'influences qui se mélangent.
Vous jouez quoi comme instrument ?
Alors moi, je joue dans Lavarda, je joue de la vielle à roue, cornemuse, violon, nickel arpa, du tuba et de l'accordéon diatonique.
Vous avez commencé par quel instrument ?
Moi, j'ai commencé par la batterie, mais les instruments que je pratique aujourd'hui, je les ai appris en voyageant, en rencontrant des gens. Je suis un musicien de tradition orale, on va dire. Voilà, c'est de la transmission orale, j'ai appris des morceaux comme ça, de musique traditionnelle.
Un ami musicien, par exemple, qui m'a dit que lui avait commencé à jouer certains instruments parce qu'on lui en avait donné, en fait. C'est parce qu'il en avait récupéré, ça se passe aussi comme ça ?
Oui, aussi, ouais. Moi, je me suis mis au violon parce qu'on m'en avait donné un. Les gens, mes amis, mes connaissances, les voyages aussi, donc m'ont fait rencontrer d'autres musiciens qui m'ont appris plein de choses.
Cette semaine, la rubrique Culture vous a été présentée par Anna Kubishta. Merci à l'équipe de production pour la mise en onde. Et on termine avec Ma Maliga, une chanson interprétée notamment par des enfants d'un petit village roumain avec lequel travaille l'association Sarfirdem.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc, Alain Slivinsky.
Il y a 15 jours, nous avons présenté les bacs et les passeurs qui permettent encore de nos jours de franchir certains cours d'eau en République tchèque. Que diriez-vous cette semaine de parler d'un moyen encore plus ancien de traverser ces cours d'eau ? Et d'abord, savez-vous de quoi nous pourrions nous entretenir ? Avant les ponts, il y avait donc les bacs, et avant les bacs, il y avait les gués. Et c'est donc d'eux que nous parlerons dans la balade touristique de cette semaine. Pour tout dire, des gués véritables, ceux qui permettent de traverser une rivière ou un fleuve, en général un droit de passage, donc un système de péage, il n'y en a plus en Tchéquie. Mais il reste quelque chose de très intéressant.
Svatoyanske prodi pa jestra.
C'est vrai, des guerres sur les importantes voies commerciales, comme il en existait au Moyen-Âge, à l'époque des transports aériens, des autoroutes et des TGV, il n'y en a plus. Par contre, le nom de ces guets s'est conservé dans l'appellation de certaines villes et communes tchèques. Grâce à elles, on peut encore se faire une idée de ce qu'étaient les transports jadis. Nous nous proposons de vous présenter les villes les plus importantes qui portent le nom de guet. Commençons par une assez grande ville, Havlíčkův Brod, le guet de Havlíček. Havlíček étant un nom propre, Brod signifiant guet.
Zůstanou navždy skryty hluboko v srdcích. Svatojanské proudy krásno dali všem. Nikdy nezapomenem.
Havlíčkův Brod est une ville ancienne très sympathique dont l'histoire remonte au début du XIIIe siècle. Elle est située sur une des rivières les plus romantiques de la Tchéquie, la Sázava. La région, le plateau tchéco-morave, offre une multitude de beautés naturelles et est très recherchée par les touristes aussi bien tchèques qu'étrangers. Un paradis pour les promenades, le tourisme pédestre ou les amateurs de VTT. Pourquoi avoir créé un guet justement à cet endroit? Tout simplement parce qu'il se trouvait sur une voie marchande conduisant des mines d'argent locales vers Prague, la capitale du royaume de Bohême, ou Kutná Hora, où les souverains frappaient leur monnaie. D'un humble hameau à l'origine, Havlíčkův Brod est devenu une ville royale et un chef-lieu départemental au XXe siècle. Aujourd'hui, la ville compte 25 000 habitants. Une bonne centaine de monuments historiques se sont conservés, et depuis les années 80 du siècle dernier, le centre historique de Havlíčkův Brod est un site classé. On peut y admirer les remparts et leurs bastions, la place baroque du centre, la chaumière médiévale Stafla, de magnifiques églises, des fontaines, entendre l'une des plus anciennes cloches de Bohême. Elle s'appelle Guillaume. Les restaurants sont aussi nombreux et accueillants. Havlíčkův Brod est aussi connu en tant que localité qui héberge les émetteurs de la radio tchèque, surtout celui en grandes ondes, d'une puissance de 1500 kW, l'un des plus puissants en Europe. Le guet de Havlíček, Havlíčkův Brod donc, une destination à ne pas manquer sur la Sázava, aujourd'hui traversée par des ponts.
Koupil jsem si modrý laminát, modrou barvu na lodi mám rád. Na plotě se houpáme hluboké a teď hledám děvče modrou oké. Můj člun tě čeká pod modravým stropem, přijeď třeba autostopem, můj člun a řeka a tam dálce hezký.
Deuxième ville sur la liste des anciens guets de la Tchéquie, Český Brod, le guet tchèque. C'est aussi la deuxième ville par son importance dans le département du chef-lieu de Kolín, à l'est de Prague, sur l'Elbe, le seul fleuve de la République tchèque. Český Brod, une très ancienne ville gothique, a été fondée par l'évêque pragois Jean Ier au début du XIIe siècle. Le hameau original se trouvait sur les bords d'une petite rivière, la Chembera, qui abreuvait une vaste région de marécages, d'où la nécessité de créer un guet. En effet, c'est par cette localité que passait l'une des plus importantes voies marchandes reliant Prague à l'Europe de l'Est et du Sud. Au début, elle s'appelait tout simplement le guet. Ce ne fut qu'en 1268 que Český Brod devint le guet épiscopal, cela grâce à l'évêque pragois encore, Jean III de Dražice, et que la ville commença à bénéficier de certains privilèges, droit de péage pour traverser le guet, droit de construire des murailles. Le guet épiscopal connut très rapidement un riche épanouissement et devint un centre commercial, mais aussi une étape importante, à une journée de Prague, sur la route de Vienne, Budapest ou même Bucarest. À voir aujourd'hui les très beaux ensembles de maisons bourgeoises, les bâtiments religieux et en premier lieu l'église romane de Saint-Gothard. Nous vous recommandons aussi les caves, les catacombes de Český Brod, sur lesquelles beaucoup de légendes existent. De nos jours, elles servent probablement, comme par le passé, d'entrepôts, mais aussi, et ce qui est plus intéressant, de salles de restaurants, d'auberges et autres lieux recommandés après une belle journée passée à découvrir l'histoire de ce gai tchèque, Český Brod, dont l'appellation date du XIVe siècle.
Země se bílou šlajsnou mokrou záplavou, s větrem nad hlavou, modrou dálavou. Neboj se, můj člun tě čeká, pod modravým stropem, přijeď rychle autostopem, můj člun tě čeká, děvče mé, budem spolu do snů plout. Až nás zdravá řeka uchopí, pak tvé srdce jistě pochopí, že ta voda kouzlo má nemalé, proto městu dáme v Kéňu vale, můj člun tě čeká.
Un autre gai dans les contrées tchèques et moraves se trouve en Moravie, justement. La ville porte le nom de Uherský Brod, le gai hongrois. Pourquoi ? Parce qu'elle se trouve à la frontière ou presque entre l'ancien royaume de Bohême et celui de Hongrie. Aujourd'hui, on passe par Uherský Brod pour se rendre en Slovaquie, jadis la Haute-Hongrie. L'histoire de la ville remonte au XIe et XIIe siècle. Comme les autres villes qui portent le nom de gai, elle a été fondée sur un cours d'eau, la rivière Olchava, à l'endroit où on la traversait. Uherský Brod est célèbre surtout grâce à Jan Amos Komenský, Comenius, qui y est né. Elle devint une ville royale au XIIIe siècle et après un développement intense de l'industrie, surtout dans la seconde moitié du XXe siècle, elle est redevenue aujourd'hui une ville de transit sur les voies routières qui conduisent en Slovaquie ou en Pologne. À visiter surtout le centre historique avec l'église de l'Assomption de la Vierge et la maison natale de Comenius. Les monuments historiques ne sont pas des plus nombreux, mais les environs romantiques de la ville valent vraiment la peine de s'arrêter à Uherský Brod, le gai hongrois, lors d'un voyage menant de Tchéquie en Slovaquie.
Nad řekou rostou jedle, mezi nimi dům, za dubem kousek vedle sedí v mechu zrů.
Je jako klec, mně stačí přec, jen mi tam ještě schází nejhlavnější věc. Kytara a ty patří do chaty, když sluníčko zapadá. Uvnitř ohníšek, venku měsíček, aby byla nálada. Kytara umí pasovat
podle tempa
a děvče umí milovat.
Encore deux villes portant le nom de gai à citer dans notre balade touristique, Vichy Brod et Široký Brod, le gai plus haut et le gai large. Vichy Brod se trouve sur le cours de la Vltava dans ce qu'on appelle le col de Vichy Brod, dans la région des monts de la Šumava, en Bohême du Sud. En 1938, elle faisait partie des villes annexées par Hitler, donc des Sudètes. Après une période d'abandon, sous le régime communiste et sa politique de dépeuplement des régions frontalières avec l'Europe de l'Ouest, Vichy Brod vit un nouveau développement, touristique surtout, car la ville est un point de passage important entre la Bohême du Sud et la Bavière. À noter un couvent historique reconstruit de nos jours et que nous recommandons de visiter. Široký Brod, en fait, n'existe plus sous cette appellation. Aujourd'hui, c'est une partie de la commune de Mikulovice qui se trouve sur la rivière Biela, sous les monts Jeseníky. Jadis, il y avait un gai qui traversait la rivière sur une voie marchande très importante, conduisant vers la Pologne. Pourquoi le gai large ? Parce que c'est à cet endroit que le cours de la rivière est le plus large, mais aussi que le niveau de ses eaux est le plus bas. Et c'est pour cela que depuis toujours les convois traversaient la Biela par ce gai. Et c'est avec ce gai disparu aujourd'hui, s'étant fondu dans une autre appellation de la localité, que nous terminerons notre balade touristique.
Kytaru musíš hladit, když na ní chceš hrát, děvčáko musíš hladit, když je chceš mít rád.
Na každý pád však musíš dbát, abys při fortissimus tak tu nevypad. Kytara a ty patří do chaty, když sluníčko zapadá. Uvnitř ohníček, venku měsíček,
aby byla nálada. Kytára umí basovat,
podle tempa,
a děvče umí milovat,
svého trempa.
Kytára a ty patří do chaty, abych mohl trempovat.
Nous terminerons donc ainsi cette émission en langue française de Radio Prague. Merci de l'avoir écouté.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 116